Aujourd'hui, on fait mémoire du martyr de Saint Jean-Baptiste. Alors évidemment, il passe un peu en sous-main aujourd'hui, parce que c'est le dimanche et que son martyre est une fête et pas une solennité, mais peu importe. On tient vraiment à l'esprit cette mémoire d'un saint si grand, si décisif pour le christianisme. Jean-Baptiste, eh bien, quels étaient les deux axes de sa spiritualité? D'une part, sa foi en Jésus-Christ, et d'autre part, son attachement au commandement. Sa foi au Christ, il l'a désigné immédiatement, sans se tromper, même si après, il fait demander par l'intermédiaire de ses disciples si par hasard, il n'y en a pas, quelqu'un d'autre ne viendrait pas après lui, ce que Jésus dément. Donc ça, c'est le premier versant, cette foi au Christ. Et ensuite, il accueillait les foules au désert en leur enseignant pour préparer les chemins du Seigneur. Mais comment? Pas seulement en leur disant « Je sais où est le Messie, je vais bientôt vous le montrer, vous le nommer. » Non, il a dit, il pratiquait sans cesse, eh bien, les commandements, le rappel des commandements. Jean-Baptiste a eu... Il était au désert, ce n'était pas tous les commandements qu'il rappelait, c'était ceux du Décalogue. Jean-Baptiste avait eu, comme Jésus le fera juste après lui, cette capacité toute spirituelle de résumer, de rassembler ce qui était important dans les commandements de l'Ancienne Alliance et de rejeter tout le reste, d'oublier tout le reste. Pas un rejet violent, pas une condamnation, mais c'était passé. Avec Jésus, eh bien, tout commence. Il restait cependant ces 10 commandements, enfin, un peu plus en réalité. Il y a la règle d'or, par exemple, que Jésus maintient, faire aux autres ce qu'on veut qu'on nous fasse nous-mêmes. Mais globalement, c'est le décalogue. Et ce décalogue, eh bien, c'est ça, les commandements dans ce qu'ils ont de plus précieux. Le problème, là, de l'Évangile, sur la tradition des anciens, c'est que les hommes, eh bien, s'éloignent facilement par manque de réflexion, par manque de fidélité aussi, bien sûr, parce que ces commandements du Décalogue sont les plus exigeants et les plus difficiles à accomplir, pas techniquement, mais ils obligent à renoncer à certaines choses dans sa vie personnelle, et cela tous les jours. Tandis que les commandements rituels, il n'y a pas beaucoup de renoncement à ça. Se laver les mains, ça ne coûte pas grand-chose. Et on a une bonne conscience. Ces commandements-là, la tradition des anciens, au lieu de faire naître ou de rappeler vraiment à l'intérieur de soi, dans son intime, dans l'âme, la présence de Dieu, eh bien, ces commandements tout humains font oublier les véritables commandements et donc font disparaître Dieu de l'intériorité. Les véritables commandements qui sont importants sont ceux qui permettent à Dieu de venir habiter en chacun d'entre nous. Et ça, c'est vraiment la grande intuition, je dirais illumination de Jean-Baptiste, parce qu'il n'y a que Jésus, hein, qui a eu cette illumination-là, mais lui, on sait pourquoi il l'a eu. Jean-Baptiste, nous le savons, n'est pas mort en témoignant de sa foi au Christ directement. Il est mort à cause des commandements, et notamment en rappelant que l'adultère était interdit au roi Hérode et à sa femme. C'est donc pas à cause de Jésus directement. Et en même temps, si, parce que cette fidélité aux commandements dans sa vie, eh bien, est liée à l'annonce du Messie, à son exigence. Jamais Jean-Baptiste n'aurait pu annoncer le Messie ni lui être fidèle s'il n'avait été si droit dans l'application des commandements. Mais pas de tous les commandements, je le répète, pas les commandements rituels. Les commandements rituels, quand on les détache de ce qui fait l'essence de la loi de l'Ancienne Alliance, eh bien, ça éloigne de Dieu. Et ça rend pareil aux païens. Et c'est ce que Jésus explique à son auditoire. C'est pas ce qui entre dans le corps, donc ce qu'on va manger, les habits qu'on va mettre, etc. C'est ce qui en sort, ces pensées du cœur. Or, les pharisiens s'en tirent à bon compte avec des sacrifices. D'ailleurs, en termes d'orgueil, ils avaient développé tout un système rituel domestique, puisque qui singeait en quelque sorte le service rituel des prêtres au temple. Les prêtres devaient se purifier les mains, la tête, etc., avant de faire des sacrifices. Et il y a un peu cet esprit-là de rivalité, de devenir tous prêtres, quoi, est complètement inutile et stérile. Au lieu de, comme Jean-Baptiste, de réfléchir sur ce qui faisait vraiment le roc de la foi, le commandement, les commandements que Jésus a conservés, qu'il nous a demandé de continuer à respecter, ceux du Décalogue, eh bien, restaure la pureté dans nos âmes. Ils ont cette puissance, mais à condition que nous les mettions en pratique, bien évidemment. Et pour ça, il faut aimer Jésus. Jésus dit « Celui qui m'aime garde mes commandements ». La spiritualité des commandements, c'est que il n'y a pas d'impureté rituelle qui compte pour le Christ. Cette impureté rituelle qui existait dans les commandements de l'Ancienne Alliance devait juste servir d'image pour faire comprendre aux hommes, pour les éduquer dans ce qui fait la véritable impureté, qui est celle du cœur. Et la tradition humaine, qui est facile à suivre, puisque c'est humain, c'est à la portée des hommes, ce sont des commandements que les hommes se forgent pour délimiter le champ à l'intérieur duquel ils vivent. Hein, c'est des sortes de clôtures rituelles. Et comme ça, ils sont tranquilles, ils ont l'impression d'être à l'abri, en sécurité, et que personne ne viendra les franchir, ni virus, ni gros char, ni je ne sais pas quoi. Or, cette efficacité-là, elle ne sert à rien. Ces rituels humains, là, c'est des illusions. L'Ancienne Alliance devait éduquer lentement les hommes à l'intériorité. Et c'est pourquoi Jésus, eh bien, tient ce discours aux pharisiens. Vous mesurerez votre transformation intérieure, religieuse, eh bien, par l'application des commandements, par leur mise en pratique. La pureté et l'impureté, cette dialectique du pur et de l'impur rime avec la dialectique de la vie et de la mort. En entrant à Jérusalem, Jésus annonce sa mort prochaine. Il faut que le grain de blé tombé en terre meure pour porter du fruit. S'il ne meurt pas, il ne porte pas de fruit. Il parlait de lui-même. Mais tout de suite, il généralise et il ajoute « Qui aime sa vie la perdra ». Qui aime sa vie la perdra. Mais qui est sa vie, eh bien la sauvera et la gardera pour la vie éternelle. En fait, quand on traduit littéralement, c'est pas aimer sa vie, ni haïr sa vie. C'est aimer son âme. Qui aime son âme meurt. Ça, c'est le sens traduit littéralement la phrase. Qui aime son âme meurt. Ce n'est pas sa vie biologique, ce n'est pas sa vie affective, ce n'est pas sa vie psychologique. Celle-là, son corps, il faut bien l'aimer un minimum, etc. C'est transformer en idolâtrie l'amour de soi. Ça se situe bien dans l'âme. Ce n'est pas une vie extérieure à nous. C'est une vie qui nous est tout intérieure, que Jésus montre du doigt. Qui aime sa vie, eh bien, c'est forcément au détriment de la vie des autres, qui aime son âme, c'est forcément au détriment de Dieu. Qui aime son âme n'obtiendra pas la vie éternelle. Pour obtenir la vie éternelle, il faut se laisser éduquer par les commandements qui font fondre cette espèce d'amour idolâtrique de soi. C'est la vertu des commandements. Quand on laisse les commandements de côté, qu'on se concentre donc sur d'autres préceptes liturgiques, sociaux, il y en a beaucoup dans l'Église, on s'éloigne en réalité de Dieu sans s'en rendre compte, puisque en quelque sorte on essaye d'exorciser l'éloignement en lui collant une tradition qui prend sa place, mais qui ne le remplace pas. Les commandements du Seigneur, eh bien, ils font habiter le Seigneur dans notre cœur en purifiant notre cœur. Il faut penser que lorsque nous accueillons dans notre cœur, et c'est là le seul véritable sanctuaire où Dieu désire habiter, eh bien, lorsqu'on accueille le Seigneur dans nos cœurs, c'est le Sacré-Cœur qu'on accueille. C'est l'amour pur. Alors, il y a des gens qui ont le vertige. Comment est-ce que je peux accueillir quelqu'un d'aussi grand, qui me dépasse tellement? Et il y a des gens qui ont réellement peur de cela. Une peur religieuse, s'entend. Je ne peux pas m'approcher de Dieu, il est trop grand. Mais Dieu a pris chair de la Vierge Marie. Donc Dieu peut-être peut s'introduire en nous sans que sa grandeur, eh bien, ne nous écrase. C'est le rôle, c'est le but de l'incarnation du Verbe de Dieu. Avoir peur de la grandeur de Dieu, c'est une crainte de l'Ancien Testament, qui lui ne pouvait pas accueillir Dieu intérieurement. Ça préparait, mais la réalisation, c'est l'incarnation qui l'effectue réellement. Donc par l'incarnation, Jésus parvient à introduire sa majesté divine infinie dans le cœur fini de chacun d'entre nous. C'est une chose merveilleuse. Mais si on, pour ceux qui prennent peur de cela et qui veulent avoir bonne conscience, qui se parent d'humilité ou simplement qui ont peur, comme le mauvais serviteur qui enterre son talent, « J'ai eu peur de toi », dit-il au maître. Ben oui, il a peur de cette grandeur écrasante. Mais ça, si on veut fuir Dieu, eh bien on introduira dans son cœur les démons. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de camp, de refuge pour la neutralité en matière religieuse. Si on n'accueille pas Dieu avec ses conditions, et tel qu'il est, oui, si pur, lui, qu'il nous fait honte, si vaste, que sa présence, sa gloire est écrasante pour nous, eh bien oui, il faut l'accepter, l'accueillir tel qu'il est, c'est ainsi que nous serons transformés. Et nous serons transformés vraiment pas en étant traité par des esclaves de sa part, en étant écrasé par tant de gloire et de grandeur, et surtout de sainteté, d'amour. Mais au contraire, c'est le propre du cœur de Jésus, c'est de nous émerveiller, de susciter en nous un désir de lui ressembler un peu, tout en sachant qu'on ne pourra jamais l'approcher même d'approcher d'une quelconque façon. C'est impossible. Mais en même temps, il nous propose de partager sa propre vie qui est en lui, sa vie divine. Dès lors, nous le verrons tel qu'il est, parce que nous serons semblables à lui, nous dit saint Jean. Alors vraiment, devant ce grand mystère, voyons les attitudes humaines, les traditions humaines, les arguments humains par rapport à la foi, par rapport à la vie religieuse, comme tellement ridicule, tellement éloigné de l'expérience grandiose qu'il nous propose. Voyez cette liste de péchés là, qui conclut le passage que nous avons lu. C'est ce qui sort du cœur de l'homme, toute cette liste, adultère, cupidité, méchanceté, vol, meurtre, etc. Eh bien, tout ça, c'est la tonalité du monde moderne dans lequel nous sommes immergés. Ce monde-là, nous le reconnaissons par cette petite liste que Jésus nous donne. Ce monde-là ne veut que la mort de l'homme intérieur. Il veut un homme extérieur qui redevient ces pharisiens et ces scribes qui interrogeaient Jésus. Ne prenons pas de ce monde de leçons de morale. Ne nous laissons pas impressionner par lui. Mais vivons par Dieu, pour Dieu, et c'est devant le Christ seul que nous devons chaque jour rendre compte.